Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, le mois du rosaire est maintenant bien avancé. Pour nous encourager à bien réciter notre chapelet chaque jour, retraçons la vie de celui qu'on a appelé l'apôtre de l'Ave Maria, le Père Georges Bellanger, de la Congrégation des religieux de Saint-Vincent-de-Paul, une congrégation fondée au XIXe siècle dans un esprit contre-révolutionnaire pour travailler à la restauration de l'ordre social chrétien. Georges Bellanger est né à Bourbourg, dans le nord de la France, le 24 mai 1861, en la fête de Notre-Dame Auxiliatrice, et baptisé dès le lendemain. Sa piété, il la devra beaucoup à sa mère. Le curé d'Ars disait « La vertu passe du cœur de la mère dans celui de ses enfants. » Malgré le travail que lui donnaient ses 6 enfants, la maman de Georges Bellanger se levait tous les matins à 3 heures, été comme hiver, pour partir à l'église, assez éloignée. À l'époque, on allait à l'église à pied, il n'y avait pas de voiture, et des fois c'était un peu loin. Donc il fallait se lever de bonne heure. Et elle y entendait la messe, puis revenait à temps pour lever les enfants. À la maison, elle parlait souvent du bon Dieu. « Ma mère me disait un mot du bon Dieu plus de 50 fois dans une journée, » dira Georges Bellanger. Et il m'entrait dans le sang, ce mot du bon Dieu. De caractère naturellement difficile, irascible, impérieux, Georges Bellanger, grâce à l'éducation reçue à la maison, grandissait peu à peu en piété. À l'âge de 7 ans, il s'exerçait à dire la messe avec un petit ornement offert par une amie de la famille. À l'âge de 10 ans, sa mère le conduisit au collège dans la ville de Saint-Omer. « N'en faites pas d'abord un savant, faites-en surtout un bon chrétien, » dit-elle au directeur. « Élevez-le pour Dieu. » De fait, ses notes en classe étaient très moyennes en raison de fréquents maux de tête et puis en raison aussi d'une intelligence moyenne. Mais il décrochait toujours le premier prix d'instruction religieuse, et il était aimé de tous ses camarades. Sa première communion lui donnera une dévotion eucharistique extraordinaire pour toute la vie. Comme quoi il faut bien faire sa première communion, bien préparer les enfants à leur première communion. Arrivé à l'âge de 18 ans, il écrit à un ami qui rentrait au séminaire son programme religieux pour les vacances. Le matin, levé à 5h30, lecture spirituelle, messe. L'après-midi, chapelet, petit office de la Sainte Vierge, et vers le soir, visite au Saint-Sacrement. À la fin de l'année, cela ne nous étonne pas, il entra au grand séminaire à Arras. Important de voir les chiffres de l'époque. En 1879, il y avait 170 séminaristes au grand séminaire d'Arras. Le diocèse sera d'ailleurs marqué successivement par 2 saints évêques antilibéraux formant leurs prêtres et séminaristes dans l'esprit du syllabus de Pie IX contre les erreurs du monde moderne. Georges Bellanger sera donc formé à bonne école. Il est ordonné prêtre à l'âge de 24 ans, nommé aussitôt professeur au petit séminaire d'Arras. Les petits séminaires étaient des collèges-lycées où entraient les élèves qui pensaient à la vocation sans qu'il soit obligatoire d'entrer au grand séminaire à la fin des études secondaires, bien sûr. Encore les chiffres. En 1885, le petit séminaire d'Arras comptait 325 élèves. Excellent professeur, l'abbé Bellanger a très vite un grand ascendant sur les élèves. « Voyez-vous ce petit boiteux, » dira le directeur, « il confesse la moitié de mes petits séminaristes, et vous ne soupçonnerez jamais tout le bien qu'il fait à ses pénitents. Aussi, je lui en envoie le plus possible. Quand un élève s'adresse à lui, je suis parfaitement tranquille et je n'ai plus à m'occuper de lui, ni pour la conduite, ni pour la direction. Si la maison va bien, c'est à lui en grande partie que je l'attribue. De la confession, il conduisait ses pénitents à la communion. S'il enlevait les péchés par l'absolution, c'était pour conduire ses jeunes à Jésus, parce que bien sûr, c'est Jésus qui ferait le travail le plus important. Et l'abbé Bélanger retrouvait ici les intuitions des grands éducateurs de la jeunesse, le père Timon David, l'abbé Édouard Pope. Devançant les décrets de Saint Pidis, il introduisit d'ailleurs au petit séminaire la communion quotidienne pour ceux qui le voulaient, ce qui n'était pas l'habitude à l'époque. Il donnait en même temps à ses élèves une solide piété mariale, puisque c'est par Marie que l'on va à Jésus. Il prêchait d'ailleurs par l'exemple. Toutes les fois que je regarde l'abbé Bélanger, dira un élève, je regarde s'il a son chapelet à la main. Jusqu'ici, je ne l'ai pas vu sans cela. Cependant, un nouveau champ d'apostolat va s'ouvrir pour le zèle du prêtre. Un confrère lui demande son aide pour l'aumônerie militaire de la caserne d'Arras. La tâche était délicate. À l'époque, la République maçonnique interdisait aux prêtres l'entrée des casernes. Il fallait installer l'aumônerie dans une rue voisine et compter sur l'apostolat des militaires catholiques pour y amener leurs collègues. Devant la difficulté de l'entreprise, l'abbé Bélanger se tourna vers Notre-Dame. Il intronisa sa statue dans l'aumônerie. C'était maintenant la maison de Marie, elle ne manquerait certainement pas d'y attirer les âmes. Et en effet, à l'arrivée de l'abbé Bélanger en 1886, il n'y avait que 5 ou 6 soldats qui fréquentaient l'aumônerie. Le jour de l'intronisation de la statue, ils étaient 20. 5 mois après, ils étaient 50, et les mois passant, ils arrivèrent à 200. Alors il fallut transférer l'œuvre dans une maison plus grande, où une vaste salle fut transformée en chapelle. Dans leur temps libre, les soldats venaient se confesser, assister à la messe, communier, parler avec l'abbé. Et les baptêmes d'adultes se succédaient. Dans l'ambiance anticléricale de l'époque, cela ne pouvait rester sans conséquence. Les autorités militaires s'émurent. Elles dénoncèrent l'abbé Bélanger au ministre de la guerre Fraissinet qui fit fermer l'aumônerie. Qu'à cela ne tienne, déjouant la surveillance de la police, l'abbé Bélanger continua à rassembler ses militaires, tantôt dans une église, tantôt chez des fidèles, portant le Saint-Sacrement caché dans son manteau. Son secret, une grande partie de ses nuits passées à prier, le plus souvent les bras en croix, et sa foi inébranlable dans la puissance du chapelet. Parce qu'une chose était d'introniser une statue de Notre-Dame, mais pour qu'elle agisse, la Vierge Marie veut nos prières, et spécialement nos Ave Maria. Écoutons ce que l'abbé Bélanger, devenu père Bélanger, parce qu'entre-temps il était rentré dans la congrégation des religieux de Saint-Vincent de Paul. Écoutons ce qu'il dit de cette prière. L'Ave Maria est tout à la fois le plus beau salut et la prière la plus touchante adressée à Marie. Comme salut, l'Ave Maria remplit d'allégresse l'âme de Marie, lui rappelant la scène de l'Annonciation. Comme prière de supplication, il éveille en elle son immense compassion à l'égard des hommes, donc elle va agir. C'est l'Ave Maria qui a rendu Dieu au monde, l'incarnation, la rédemption, l'Eucharistie, voilà les fruits du premier Ave Maria prononcé sur la terre. Ne rapetissons pas cette prière que nous ne redirons jamais trop souvent si nous la disons bien. Elle est riche de Jésus, Ne disons l'Ave Maria que pour donner Dieu au monde. Semons des Ave Maria et nous récolterons des âmes. Pour les élèves du petit séminaire, comme pour les militaires d'Arras, le père Bélanger était le prêtre du chapelet. Sur un cahier de résolution qu'on trouva après sa mort, on lit ces lignes. Mes trois ou quatre rosaires bien dits chaque jour, mes trois Angélus, l'Ave Maria avant toutes les actions, même les plus insignifiantes en apparence, en me levant, en me couchant, en m'endormant, en entrant dans la maison, dans la chapelle, dans ma chambre, en sortant de la maison, en montant l'escalier, en le descendant, dans tous mes moments libres, Ave Maria. À certaines fêtes solennelles de la Sainte Vierge, il lui offrait 1000 Ave Maria, 7 rosaires. En certaines circonstances difficiles, il a même fait la neuvaine des 1000 Ave Maria, quotidien. Et il a obtenu des miracles. Bien sûr, le chapelet n'était pas pour lui une simple dévotion personnelle ou une récitation mécanique. Il lisait tous les ouvrages sur le sujet pour en approfondir la doctrine et pour trouver des arguments pour persuader les âmes de dire leur chapelet. Le chapelet, une prière donnée par Notre-Dame elle-même, nous faisant contempler les plus belles scènes de l'Évangile pour en reproduire les exemples dans notre vie, et mettant en branle, par les Ave Maria, la toute-puissance de la médiation universelle de Notre-Dame pour nous convertir et sauver les âmes, pour étendre le règne de Jésus et de Marie et pour repousser les ennemis de l'Église. Si bien sûr les élèves et les soldats ne pouvaient imiter leur aumônier dans sa piété extraordinaire, sa prédication et son exemple leur donnait une foi inébranlable dans la puissance du chapelet. Alors que Notre-Dame nous donne cette grâce en ce mois du rosaire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.